Alors, aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler d'un passage dans Matthieu 18, « Si ton frère a péché contre toi ». Je vais lire dans la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, qui, paradoxalement, n'a pas le « contre toi » dans le texte, et nous allons en parler, pourquoi. Donc, si ton frère vient à pécher contre toi, va le trouver et fais-lui des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que l'affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. En vérité, je vous le déclare, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Je vous le déclare encore, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Par mon Père qui est aux cieux. Car là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. Ainsi en va-t-il du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre, ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, en remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur prosterné lui disait, « Mais prends patience envers moi, s'il te plaît, je te rembourserai tout. » Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant « Rembourse-moi ce que tu dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et lui suppliait en disant « Mais prends patience envers moi et je te rembourserai !» Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son maître lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon ?» comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Nous avons là, dans Matthieu 18, 1 à 35, un ensemble de passages qui traitent des relations entre les disciples et donc des relations existantes au sein de la nouvelle, à l'époque, nouvelle communauté qu'était l'Église. Nous le savons, nous devons prendre soin les uns des autres. Malheureusement, parfois nous blessons plus que nous n'aimons les uns les autres. Nous nous aimons les uns les autres. Nous nous blessons plus que nous nous aimons. Et l'Église de Villefranche ne fait certainement pas exception, puisqu'il y a aucune église parfaite. Je me rappelle quand j'étais jeune converti et j'essayais de trouver une église et quelqu'un m'a dit « si tu cherches l'église parfaite, sinon, si tu trouves l'église parfaite, n'y va pas, elle ne le sera plus, rien que par ma présence. » Et ce passage contient 4 notions capitales que nous allons voir, le péché, le mal que l'on peut faire à autrui, qui est appelé dette dans la parabole, le pardon ou la remise de dette, le jugement et la grâce. Notre premier passage traite donc de différends dans l'Église. Alors, les manuscrits bibliques diffèrent sur la présence des mots « contre toi » dans la phrase, si ton frère vient à pécher contre toi. Il est donc possible que dans votre propre Bible, vous n'ayez pas ces deux mots, ou que vous les ayez entre crochets. Mais même si quelques manuscrits anciens et très valables omettent ces mots, nous pouvons penser qu'ils sont originaux. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué des similitudes entre ce texte et des écrits de la même époque, où la présence d'un péché contre un frère est présente. De plus, Pierre semble l'avoir en tout cas compris ainsi, puisque c'est lui qui demande combien de fois il doit pardonner un frère qui a commis une faute contre lui, ou à son égard. Nous ne sommes donc pas dans le contexte d'un péché quelconque. C'est vraiment une faute d'un frère ou d'une sœur contre un frère ou une sœur. Et c'est important d'avoir ça en tête quand on lit ce passage. En fait, Matthieu 18, 15 à 22 semble faire une combinaison de deux passages bibliques que nous retrouvons dans Lévitique 19, 17 et Deutéronome 19, 15, avec une reprise de vocabulaire. N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, dit le Lévitique, mais n'hésite pas à le réprimander ou à le reprendre. N'hésite pas à réprimander ou reprendre ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est moi le Seigneur. Et à l'époque du Lévitique, hein, quand on parlait au peuple d'Israël, le prochain c'était les personnes qui vivaient dans le peuple, hein. Les compatriotes. Deutéronome 19,15, un témoin ne se présentera pas seul contre un homme qui aura commis un crime, un péché ou une faute, quel qu'il soit, c'est sur la déclaration de deux ou trois témoins qu'on pourra instruire l'affaire. Donc on voit ces deux passages ont eu leur influence. Et je crois que c'est ça que le texte veut nous dire. Même si c'est difficile, reprendre son frère et sa sœur est en fait un acte d'amour qui empêche le mauvais ressentiment. Et là, je parle de quelque chose quand votre frère ou votre sœur ont commis une faute contre vous, à votre égard. Le mauvais ressentiment pourrait engendrer des actes plus graves, animés par la vengeance, comme le dit la suite de Lévitique 19-17. De plus, il est important de parler à la personne personnellement d'abord, sans faire de publicité ou de vague. Je crois que dans l'Église, on a souvent souffert du fait que quelqu'un nous fait du mal, et puis on va commencer à le dire à quelqu'un d'autre sans avoir parlé avec la personne d'abord. Vous me suivez, je suis sûr que vous avez des cas dans votre en pensée. Et donc, on alimente un ragot qui peut être basé sur une contre-vérité, et qui le plus souvent d'ailleurs est basé sur une contre-vérité. Cela nous montre vraiment que quand nous sommes blessés par une personne, un frère ou une sœur, le mieux est d'aller la voir. Une discussion saine et paisible désamorce la tension, tension souvent basée sur des malentendus. Il y a quelques semaines, je présidais au culte à Genève, et j'avais oublié, parce que ça faisait longtemps, de toute façon c'est mon église quand j'étais jeune, mais j'avais oublié comment on commençait le culte. C'est-à-dire que, vous savez, un peu avant 10h, les gens continuent de parler, etc. Et moi, j'étais président et j'ai commencé à dire « Ah, mais si on pouvait s'asseoir ou arrêter de parler. » Et puis j'ai commencé à me dire, à faire ce signe du chute, et puis il y avait une collègue dans le coin là-bas, qui il se trouve être une institutrice. Et comme j'étais instituteur au départ de formation, j'ai fait ça, c'est un peu le geste hein, qu'on fait hein, quand on veut dire silence aux enfants. Et donc je l'ai regardée, mais c'était un clin d'œil, parce qu'elle incite. Bon, c'est tout bête. Hein. Bon bref, j'avais oublié qu'à l'église de Genève, c'est le piano qui dit, alors dès que le piano commence, tout le monde se tait. Maintenant je le sais. Mais en fait, je me suis aperçu qu'après, à la fin du culte, en fait, la personne avait cru que je lui disais de se taire. et que je la visais particulièrement. Or, ce n'était pas le cas, c'était juste que je visais tout le monde, et puis j'avais juste un clin d'œil à son regard parce qu'elle était instite. Et donc, en fait, je me suis aperçu que, alors, elle ne s'est pas sentie plus que ça visée, hein, mais bon, ça aurait pu mal tourner. Elle aurait pu se dire, mais Antoine, il m'a dit de me taire devant tout le monde de la chair. Et en plus, c'est quelqu'un, alors là, c'est pour le coup, qui a l'impression qu'elle parle trop fort aussi, que les gens lui disent qu'elle parle trop fort. Donc, vous voyez ce qu'il aurait pu se passer dans la tête de cette personne, se dire, ben Antoine, voilà ce qu'il a fait. Et puis, il se trouve qu'on a pu en parler à la fin, mais si, par exemple, elle avait été commencé à dire à ses amis, ah, mais Antoine, il m'a fait ça, il veut que je me taise dans l'église, etc. Oh. Et donc, le plus simple, c'est de se voir et puis d'éviter de casser ce malentendu. Mais admettons que j'ai vraiment dit à cette personne de se taire. Elle vient me voir et dit, mais pourquoi tu as fait ça et tu m'as regardé? Je dis, bah oui, parce que toi, tu cries trop et tu as besoin de te taire. Voilà. Admettons que je dise ça. Là, elle se sent vraiment blessée. Là. La première fois, elle était blessée, elle vient me voir et donc elle va voir deux autres personnes qui me connaissent bien, et puis tout simplement, sans parler de ragot, elle dit, écoutez, j'ai été voir Antoine, il a fait ça, il m'a dit que je devais me taire, etc. Et puis mes amis qui me connaissent bien, mais tu rigoles, mais en fait, mais Antoine, c'est un taquin, il disait ça mais pour rigoler, c'était ironique, il disait, ah mais bien sûr, j'ai voulu que tu te taises, mais c'était pas ça. Ah, elle est rassurée. Et puis les amis peuvent venir me voir et puis dire, Antoine, écoute, elle a vraiment mal compris, hein. Même quand elle est venue te parler, t'es resté ironique, tout ça. Ah pardon, excuse-moi, mais non, je voulais pas que tu te taises, je visais tout le monde, etc. Quand t'es venu me voir, j'ai grossi la chose parce que je voulais être taquin, etc. Vous comprenez? Mais admettons que malgré tout ça, elle est venue me voir. Ensuite, il y a deux personnes qui ont discuté. Je reste sur mes positions, je dis non, même que je dise la femme doit se taire dans l'église et tu devais te taire ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et là, elles se sont vraiment blessées et là, la personne va à l'église. Alors, qu'est-ce que c'est l'église? L'église, en fait, j'ai beaucoup parlé sans suivre mon... Ah oui, je vais quand même dire, les deux personnes que l'on voit, hein, qui servent de témoins, c'est les deux personnes qui vont un petit peu essayer de désamorcer la chose. Et c'est dans ce contexte qu'il faut lire, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. D'accord? Ce verset-là est dans ce contexte-là. Souvent, on cite ce verset, hein, quand on va à réunion de prière, on n'est que deux, trois, on se dit, ouf, heureusement, on est deux ou trois, le Seigneur est avec nous. Mais le Seigneur est avec vous, même quand vous êtes seul. Hein. Je voulais vous rassurer. Le Seigneur est toujours là. Mais par contre, dans des situations particulières, il faut deux ou trois personnes qui pensent la même chose pour que, guidés par l'Esprit, ben, le Seigneur les exauce. En fait, Jésus, donc après, j'en viens au fait que il dit d'aller à l'église. Jésus ne mentionne que deux fois le mot « église » dans les évangiles. Ça m'a toujours surpris. Dans la bouche de Jésus, il n'emploie que deux fois le mot « église ». Et l'autre fois, mis à part notre passage, c'est le fameux « tu es Pierre et sur cette pierre, je vais bâtir mon église ». L'église, c'est l'assemblée, cette communauté qui est représentée par les anciens. Et dans les écrits rabbiniques et qumraniens, hein, vous avez entendu parler de ces rouleaux de Qumran qu'on a trouvés, on a pu comparer, on a vu aussi qu'il était question de discipline dans les synagogues et qu'on allait voir les nombreux qui étaient en fait les anciens. Et on peut penser que si les deux ou trois amis qui étaient là pour désamorcer la chose n'ont pas réussi, en fait la prochaine étape c'est vraiment de voir les anciens qui sont là, qui ont été choisis, hein, pour représenter l'Église. Vous voyez toutes les étapes, hein, qu'il y a, hein, parce que moi je me rappelle d'un cas où... une personne a été offensée, bah, tout de suite, elle le dit comme ça, du haut de la chair, « Ah, oh, il m'a fait ci, il m'a fait ça », ou dans une prière, sans que la personne ne soit concernée, ou durant une assemblée générale. Vous voyez toutes les étapes qu'il y a pour désamorcer, pour régler ce problème. Parce qu'en effet, Si les anciens, après, même aidés de personnes spécialistes pour régler le cas, n'y arrivent pas, il est possible qu'il y ait d'autres choses qui se passent en assemblée générale et que ensuite, peut-être, une fois publiquement, une décision soit prise à l'encontre de cette personne qui a fait du mal à son frère ou sa sœur. C'est les questions de lier et de délier, c'est-à-dire que la décision qu'ils vont prendre va être considérée comme celle qui vient de Dieu. Et si, malgré tout ça, l'offenseur reste sur cette position, eh ben, il est considéré comme un non-croyant, si vous voulez. Alors, il y avait deux types de non-croyants, et c'est pour ça qu'il est question du païen ou du collecteur des impôts. Le païen, c'est le non-juif, parce qu'un non-juif est pécheur, il n'a pas la loi, et donc forcément, il est non-croyant. Et le collecteur des impôts, c'est un juif, mais lui, c'est un traître, c'est un collaborateur qui participe au succès de l'occupant romain. C'est bon jusque-là ? Pardon, excusez-moi. Alors, le passage de Pierre qui demande combien de fois il peut pardonner à son frère, et c'est parce qu'il y avait des discussions à ce sujet. Et les rabbins tendaient à penser qu'il fallait pardonner trois fois, mais pas plus. Un verre, ça va. Hein, trois verres, bonjour les dégâts. Mais il est intéressant de voir que Pierre, plus généreux, il parle de sept fois, peut-être en écho avec cette parole de Luc qui dit « Si ton frère vient t'offenser, reprends-le, s'il se repent, pardonne-lui. Et si sept fois le jour il t'offense et que sept fois il revient à toi en disant « Je me repens, tu lui pardonneras. » Mais la réponse de Jésus va au-delà de cela, puisqu'il dit qu'on doit pardonner 70 fois sept fois. Alors, ce chiffre rappelle un autre passage dans Genèse 4, 24, où il est dit, après le crime d'Abel, par Caïn, « Oui, Caïn sera vengé sept fois, mais Lamech 77 fois. » Et l'idée de ce nombre est tout simplement symbolique. C'est une manière d'exprimer l'infini, ou une manière de véhiculer la notion qu'il ne faut pas compter. Et je ne sais pas si l'un d'entre vous a offensé une fois, 490 fois, la même personne, je veux dire. C'est quand même important. Mais ce que Jésus veut dire, c'est que nous devons pardonner à nos frères sans limite, ou à notre sœur sans limite. Et alors, on verra un peu après comment ça peut s'appliquer pratiquement. Mais avant, il faut se tourner vers ce passage qui vient en soutien de tout ce qu'on a dit. Quand vous lisez les évangiles, les évangélistes mettent les passages ensemble, qui parfois sont dispersés, ils les mettent ensemble pour un sens. Et c'est important de suivre ce sens. Donc il y a ce passage qui est un peu long, que je ne relis pas. Mais c'est cette parabole du serviteur impitoyable, cette parabole qui parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, en fait, c'est ce que Dieu a toujours eu en vue depuis la chute d'Adam et Ève. Et ce royaume s'est approché des hommes avec Jésus. Jésus est le roi. Et nous languissons tous de vivre dans ce royaume qui sera véritablement établi sur terre quand Jésus reviendra, quand il y aura eu le jugement, quand le ciel et la terre s'uniront. Et ce royaume est présent aujourd'hui dans l'Église. Bien qu'imparfaitement. Nous sommes les sujets de ce royaume, nous qui faisons partie de l'Église. Nous devons respect et obéissance au roi en essayant dans notre imperfection de vivre ce royaume. Et pourquoi nous faisons partie de ce royaume ? Parce que nous avons été pardonnés. Nous sommes en fait ce serviteur qui devait 10 000 talents à son roi. C'est-à-dire l'équivalent de 64 000 années de SMIC, et qui, au lieu d'être vendu comme esclave pour travailler et payer cette dette, est gracié. C'est nous. À titre de comparaison, et malgré notre surprise ou dégoût renouvelé, les dirigeants du CAC 40 ont touché en moyenne 5,3 millions d'euros en 2021, soit l'équivalent de 284 années de SMIC. Dans notre passage, on parle de 164 000 année de SMIC. Tout ça pour dire que la somme dont on parle ici est une somme astronomique qui représente tous les péchés que nous avons commis dans le passé, que nous commettons aujourd'hui et que nous commettrons dans le futur, toute leur valeur de mal. En péchant, nous entrons en effet en dette contre Dieu. Et vous connaissez ce verset, le salaire du péché c'est la mort, nous dit Romains 6, 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, nous sommes des pécheurs qui devaient 10 000 talents, mais nous avons été graciés par Jésus qui a payé le prix pour nous. Nous devions mourir, mais Jésus est mort à notre place. Ça, pardon, c'est la bonne nouvelle en Jésus et la promesse de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Et je pense que tous ici, vous l'avez compris et accepté. Mais que fait l'autre serviteur, le serviteur impitoyable? Il a été gracié de 10 000 talents et il refuse de gracier son serviteur qui lui doit 100 deniers, soit l'équivalent de 3 mois et demi de salaire. Donc l'un c'est 165 000 années de salaire et l'autre c'est 2 mois et demi. Donc vous voyez vraiment que tout est fait là pour montrer la différence. Et cette dette que ce serviteur gracié pense que l'autre lui doit, en fait, c'est une faute, c'est un péché contre lui. Et donc, le serviteur impitoyable, en fait, s'aperçoit, quoi, se montre indigne du pardon du roi. Et c'est pour ça que le roi est en colère. C'est pour ça que le roi le met en prison et finalement lui dit qu'il doit rembourser sa longue dette de 165 000 années de salaire. Nous devons remettre la dette de notre prochain parce que Dieu nous a remis notre dette. C'est tout simplement ça, la leçon de cette histoire. C'est ce qui nous est rappelé aussi dans le Notre Père. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous, et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Et cette dernière phrase nous fait froid dans le dos. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. C'est la même phrase à peu près que celle de notre passage. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Est-ce que cela signifie que quelqu'un qui aurait été pardonné peut perdre son pardon? Je ne le crois pas. Cela signifie plutôt qu'un cœur qui ne serait pas ouvert à pardonner aux autres aurait mal compris le pardon qui est offert par Dieu. D'accord ? Je répète, cela signifie plutôt qu'un cœur qui ne serait pas prêt à ouvert, pas. Cela signifie plutôt qu'un cœur qui ne serait pas ouvert à pardonner aux autres aurait mal compris le pardon offert par Dieu. Et en fait, il n'aurait pas accepté ce pardon du fait, parce qu'il ne l'aurait pas compris. Ce serait une grâce à bon marché. Vous connaissez peut-être le théologien Dietrich Bonhoeffer, qui a décrit cette notion théologique de la grâce à bon marché. En gros, on se dit, si Dieu pardonne, je fais ce que je veux. Je mène la vie que je veux, et puis bon, avant de mourir, je demanderai pardon, puis c'est bon. Or, ce n'est pas comme ça que le Seigneur le veut. Et nous pouvons penser, c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas perdre ce pardon, et le fait de craindre même de perdre ce pardon nous prouve que nous avons justement été réellement pardonnés. Mais ce verset est là pour nous prévenir, pour nous rappeler qu'il ne faut pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. C'est-à-dire, dès qu'on a un conflit avec un frère et une sœur qu'on doit leur pardonner, qu'on a du mal, rappelons-nous ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est de cette manière-là que nous pourrons être ouvriers de pardon. Souvent, je m'aperçois que, et j'ai eu cette réflexion quand j'étais à Paris, quand j'étais dans le métro, et je voyais tous ces gens, tous les jours, souvent tristes, etc. Et quand je regardais ces gens, si on commence à se dire que Dieu les voit comme ses créatures et qu'il les aime, nos regards changent sur eux. Et de la même manière, si nous avons un conflit, on a quelqu'un qui nous a offensé, qu'on a du mal à pardonner, rappelons-nous que Dieu nous a pardonné. Et donc je pense que ce serviteur impitoyable n'était pas réellement né de nouveau. Son cœur n'avait pas été changé. La proposition de Dieu d'être pardonné de tous nos péchés et d'être sauvé est faite à tous les hommes, mais c'est seulement quand nous l'acceptons de tout notre cœur que nous sommes sauvés par grâce et que nous mettons en pratique la loi du royaume. Nous démontrons par nos actes que nous sommes en accord avec cette loi et que nous avons plaisir à la suivre. Et donc, par son geste, le serviteur impitoyable a démontré qu'il n'était pas sujet du roi, et il subit donc les conséquences de son péché. Mais avant de conclure, je voudrais passer un petit peu quelques points sur la mise en pratique de ça. Parce que c'est beau de dire toutes ces belles paroles, mais dans la pratique, ce n'est pas aussi évident. Il n'est pas toujours facile de pardonner. Il est difficile, par exemple, de pardonner à un frère ou une sœur qui nous a blessés, à qui nous avons exprimé notre blessure, mais qui ne demande pas pardon. Ou du moins, cela ne nous semble pas clair, en tout cas. Et je l'ai vécu. J'ai été offensé par quelqu'un que je respecte beaucoup. Je lui ai dit, tu m'as offensé, ça m'a fait du mal ce que tu as dit. Et la personne n'a pas véritablement dit, je suis désolé, pardon, je voulais pas m'exprimer comme ça, etc. En fait, la personne est restée sur ses positions. Et même pas avec une parole qui aurait pu dire, écoute, je suis désolé que ça t'ait fait du mal, mais voilà ce que je voulais dire, ou s'expliquer un peu. Mais je m'y suis aperçu que depuis, et c'était il y a quelques années, la personne a manifesté des choses envers moi qui montrent qu'en fait, elle est désolée de ce qu'elle m'a fait. Et c'est important de parfois voir ces éléments, ces signes qui montrent que, en fait, le pardon est là. Mais parce qu'en tant qu'humain, parfois, on a du mal à dire pardon. Hein. C'est Elton John qui a dit « pardon est le mot le plus difficile hein. ». Pardon est le mot le plus difficile. Le plus difficile à dire. Donc ça peut être difficile, mais ce n'est pas pour ça que quand on est offensé, qu'il ne faut pas aller voir son frère et sa sœur. Parce que c'est le meilleur moyen de voir d'abord s'il n'y a pas eu un quiproquo, et puis de régler cette affaire. Alors, pardonner sans limite, parce que c'est beau de dire aussi pardonner sans limite, quelqu'un pourrait profiter de ça. Mais je me suis aperçu, en fait, on le vit peut-être, vous tous qui êtes en couple, la plupart vous êtes en couple, la vie de couple, c'est une vie de pardon, mais journalière. Alors, ceci dit, c'est pas parce que les petites offenses répétées sont pardonnées qu'il faut les faire, mais on se pardonne mutuellement tous les jours, et heureusement, autrement ça serait invivable. Mais admettons qu'un homme, par exemple, trompe sa femme, et la femme, dans sa bonté, décide de lui pardonner. Et puis que ça se répète, quelques mois plus tard, deuxième fois. Bon. Alors, dans sa grâce, la femme pardonne. Mais pardonner comme ça, sans limite, ça n'aurait aucun sens. Ça montrerait deux choses, c'est que la personne qui trompe, elle se dit, bon, ça marche, on va continuer comme ça. La personne qui est trompée se dit, on pourrait se demander si vraiment elle aime son mari, parce qu'il dit, bon, finalement, il fait sa vie, puis moi, je vais peut-être faire ma vie à moi. Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire. Pardonner sans limite, c'est que dans un cas de pardon sincère ou quelque chose qui soit pas vicieux comme ce que j'ai montré. Et ça peut être le cas aussi de l'alcool, de tout vice qui pourrait exister. Ces problèmes qui mettent à mal la relation conjugale, là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Amis, pasteurs, médecins, conseillers conjugaux, il faut demander de l'aide, et ça le plus tôt possible. Et si dans l'église, quelqu'un vous demande de l'aide, parce qu'elle vit cette sorte de situation, je nous en supplie, ne soyons pas condamnateurs, mais soyons pleins d'amour pour une frère et une sœur, ou une sœur qui a besoin de nous. Et cela pourrait nous arriver. Donc, soyons prudents. Quatrièmement, même s'il est préférable de régler tout problème avant que le soleil ne se couche, hein, ça c'est un verset que je n'ai pas cité, mais vous le connaissez, il n'est jamais trop tard pour demander pardon ou aller parler à celui qui nous a offensés, même après des années. Et si vous avez un conflit non résolu depuis longtemps, je ne peux que vous encourager à parler ou écrire à la personne cette semaine. Ne gardons pas de ressentiment qui fait que on pourrait à notre tour pécher. Enfin, si nous sommes cette fois offenseurs, peut-être que notre frère ou notre sœur ne voudra pas nous pardonner. Donc on a offensé quelqu'un, on va voir la personne, on lui demande pardon, et elle ne veut pas nous pardonner. Ça, c'est son problème. Vous avez fait votre pas, vous avez demandé pardon, et ne vous torturez pas outre mesure l'esprit en disant « mince, elle ne m'a pas pardonné ». Bon, c'est son problème, d'accord ? Vous avez fait votre part. Ainsi, nous sommes sujets du roi, des rois. Un sujet du royaume doit savoir pardonner car c'est la loi du royaume. Il doit savoir pardonner sans limite. Et quand j'ai réfléchi à ce passage, je me suis aperçu, j'ai compris quelque chose. C'est que, en fait, Jésus, à chaque fois qu'il nous donne des commandements, il veut que l'on pratique quelque chose qui est difficile, parce que nous sommes pécheurs, mais quelque chose qui, en fait, sera évident quand on vivra sur la nouvelle terre. Et c'est cela, le pardon sans limite sera évident sur la nouvelle terre. En fait, il n'y aura plus de pardon. Il n'y aurait plus besoin de pardon, puisqu'il n'y aura plus d'offense. Comme il n'y aura plus d'offense, on n'aura plus besoin de pardonner. Le pardon sera sans limite de fait sur la nouvelle terre. Je vous invite à prier. Seigneur, pardonne-nous parce que nous sommes bien souvent des membres d'église imparfaits et nous nous offensons les uns les autres quand nous aurions dû nous aimer les uns les autres. Nous faisons du mal à quelqu'un, quelqu'un nous fait du mal, et bien souvent nous emmagasinons toutes ces offenses qui nous minent, qui nous font du mal, alors que bien souvent, de parler avec la personne ferait que nous pourrions redevenir les meilleurs amis du monde. Seigneur, je voudrais que tu nous aides, que tu nous encourage à aller vers la personne qui nous offense, ou même, quand nous pensons avoir offensé la personne, que nous puissions aller devant elle et ne pas attendre qu'elle se réfléchisse et se dise « Ah, ben, j'ai été offensé, etc. » Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas qu'il y ait besoin d'avoir des témoins qui viennent voir si oui ou non, c'est une offense grave ou pas, que le conseil d'anciens ait en parlé, que même l'Église soit perturbée par tout cela. Mais allons voir la personne seule à seule d'abord. Aide-nous pour cela. Aide-nous à vivre la loi de ton royaume sur cette terre déjà, avant que nous puissions la vivre sur la nouvelle terre, là où il n'y aura plus d'offense, où il n'y aura plus de larmes, où il n'y aura plus de péché. Et nous vivrons ce que tu as voulu dès le début. Aide-nous pour cela, nous prions au nom de Jésus. Amen.